Allez, donc on démarre ce premier speed de 2024 sur la paracha de Shemot. En fait, c'est un Shemot, ça démarre un nouveau cycle, bien sûr que c'est un nouveau Sefer, mais c'est le premier des quatre prochains Sfarim. Parce que Shemot Vayikra Bamidbar Dvarim, c'est toute une seule histoire, c'est l'histoire du clan d'Israël dans le désert, la sortie d'Égypte au désert. Et donc il y a un seul personnage central, c'est Moshe Rabbeinu, et le clan d'Israël. Donc tout va tourner autour de Moshe Rabbeinu, tout va tourner autour d'Am Israël, depuis sa formation en Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Donc c'est quatre Sfarim qui n'en font qu'un seul. Et là on va commencer dans cette paracha à voir apparaître Moshe Rabbeinu, voir apparaître son personnage. Et en réalité il dit le Ramban qu'on sait très peu de choses sur Moshe Rabbeinu, en particulier ses 80 premières années. On sait quand il est né, quand il a été jeté dans le fleuve, etc. Mais après, tout le milieu de sa vie, c'est-à-dire de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 80 ans, on ne sait rien sur lui. Il est parti à Kouch, il a été roi d'une province lointaine, après il est resté à Midian une dizaine d'années, et on le voit réapparaître à l'âge de 80 ans. Donc il dit le Ramban, si la Torah fait tellement l'impasse sur quasiment les deux tiers de sa vie, il dit c'est que ça ne nous apporte rien. C'est-à-dire la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire pour nous raconter la vie de Moshe Rabbeinu, même si ça peut être très intéressant. La Torah, c'est un livre de message, et donc c'est seulement à partir du moment où c'est important pour le clan d'Israël qu'on recommence à parler de Moshe Rabbeinu. Et donc toutes les phrases qui sont dites à son propos, comme d'ailleurs à propos de tous les autres personnages dans Bereshit, mais en tout cas de Shemot jusqu'à Dvarim, tout ce qui est dit à propos de Moshe Rabbeinu est informatif de donner un enseignement, pas seulement sur Moshe Rabbeinu, mais un enseignement sur nous-mêmes. D'accord ? Donc c'est très important d'analyser tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on va étudier un texte du Kli Yakar. Qui est le Kli Yakar ? Le Kli Yakar, c'est un rav connu. Il est connu en fait pour un de ses sfarim, son commentaire sur le Chumash. D'accord ? C'est d'ailleurs ce qui lui a valu son nom, comme toujours. On ne connaît même pas son nom. Son nom, il s'appelle Shlomo Ephraim de Lunchit. On pense qu'il s'appelait Lunchit, il ne s'appelait pas Lunchit. Lunchit, c'est le nom de sa ville natale. D'accord ? C'était en Pologne. Et donc il est né là-bas et on l'a appelé Shlomo Ephraim de Lunchit. Et en réalité, il s'appelait Ephraim, mais Lunchit au départ. Et il dit qu'il a été très malade dans sa jeunesse et qu'on lui a rajouté le nom de Shlomo. On l'a appelé Shlomo Ephraim de Lunchit. Il a vécu au XVIe siècle. Et donc, c'est un commentateur sur le Chumash très important. Bien sûr, c'est un Acharon. Il a écrit d'autres livres, des drachotes, etc. Mais il était surtout connu pour son commentaire sur le Chumash. Et à la fin de sa vie, il a été rav à Prague. D'accord ? Et il est enterré au cimetière de Prague, pas loin du Maharal. Alors, on va étudier un de ses textes. Lui, il est toujours lumineux, il est très inventif dans ses chidushim. Alors, la paracha nous raconte que Moshe Rabbeinu, après de longues tergiversations, d'accord, il avait 80 ans à cette époque-là, il était à Midian, l'histoire du buisson, etc. Il a fallu qu'Hachem, il attende 7 jours pour pouvoir le convaincre d'aller en Égypte pour sauver les Bnei Israël. Alors Rashi dit pourquoi 7 jours, pourquoi. C'est vrai qu'il a été très modeste, la Torah le cite comme l'homme le plus modeste du monde, mais c'est pas seulement par modestie, c'est surtout parce qu'il voulait pas froisser son frère Aaron. On lui a dit, c'est toi qui vas être le chef, c'est toi qui vas être le sauveur, etc. Et comme Aaron, il avait déjà un pouvoir, il était le Navi, Aaron, il était déjà le prophète, c'est lui qui ramenait des prophéties au Bnei Israël, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a refusé. Et au bout de 7 jours, il a accepté, mais après de nombreuses tergiversations, jusqu'à ce qu'Hachem, c'est marqué, Hachem, il s'est énervé contre lui, il a dit, mais c'est bon ça. Et d'ailleurs, à la suite de cet épisode-là, il a perdu un titre qu'il aurait pu avoir. Normalement, il aurait dû être Cohen, Moshe Rabbeinu, il aurait dû être à la fois Moshe Rabbeinu et Cohen. Et ce titre de Cohen, il a été donné à Aaron, alors que lui, Moshe Rabbeinu, il est resté qu'un simple Lévi. Bon, il est resté Moshe Rabbeinu quand même. D'accord. Et donc ça, après de nombreuses discussions, Hachem lui dit, mais t'inquiète pas, je serai là, je t'aiderai, Aaron y parlera, enfin, Hachem il a fait un tapis rouge. Moshe m'a dit, bon, d'accord, j'y vais. Mais Hachem il a dit, attention, ça ne va pas se passer aussi facilement que ça, Paro refusera, Moshe Rabbeinu, et les Bnei Israël, Hachem lui a dit non, t'inquiète pas, les Bnei Israël, eux, ils vont accepter. Et à la fin de la paracha, il y a la première entrevue entre Moshe Rabbeinu et Paro, et à ce moment-là, Paro dit, mais je ne connais pas ton histoire, vous êtes une bande de brigands, vous voulez sortir, vous êtes juste des flemmards, je ne connais pas ton Dieu, je ne connais pas ta prophétie, allez dehors, et au contraire, on va durcir l'esclavage. Et ça, ça en était trop pour Moshe Rabbeinu, donc tout ça, c'est tout avec des guillemets, avec des pincettes, parce que le Chacham, il s'interroge beaucoup sur ce personnage. Enfin, il faut toujours s'interroger, est-ce que nous, on aurait réagi de la même manière? Si Hachem, il t'a parlé, il t'a expliqué, il t'a dit, tu attends, tu patientes. Et là, Moshe Rabbeinu, il prend la crise de colère à la fin, et il dit ceci, d'accord, quand Paro, et non seulement Paro a refusé, mais en plus, à son retour, il a trouvé les Bnei Israël, qui lui ont dit, mais c'est une honte, au lieu d'aller nous sauver, tu as fait que durcir notre travail, enfin, c'est déjà une c'est d'atteindre l'environnement. Le pasuk dit comme ça. Vayashov Moshe el Adonai, Vayoma Adonai, Lamareota Lamaze, Lamaze Shelachtani. Moshe Rabbeinu est retourné chez Hachem et il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Lamareota Lamaze, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Lamaze Shelachtani, pourquoi tu m'as envoyé? D'accord? Donc bon, c'est pas le centre de notre étude aujourd'hui, mais c'est vrai que ces psukim là, ils sont très difficile à comprendre, et il dit, mais as bati el paro. Et depuis que je suis venu à paro, la deuxième ligne, les daber bishmecha pour parler en ton nom, et ra la amazé, ça s'est aggravé pour ce peuple-là, et sauvé, tu n'as pas sauvé ton peuple. Donc il est très critique, d'accord? C'est très difficile à comprendre, déjà ces phrases-là de rébellion, c'est la première mission qu'on lui donne, il est déjà en rébellion parce que ça ne marche pas. À part ça, seulement c'est une rébellion, les mots sont durs. Alors, il y a des mfarshim qui disent, non, en réalité, Moshe Rabbeinu, le reproche, entre guillemets, qu'il fait, c'est de dire, je t'avais dit que je voulais pas aller. C'est à cause de moi que ça n'a pas marché. Je suis pas le bon cavalier pour cette mission-là. C'est pour ça qu'il dit, Lamaze Shelachtani, pourquoi tu m'as envoyé à moi? D'accord? Mais il n'empêche que les mots sont relativement durs. Il dit, non, tu as pas sauvé, au contraire, ça s'est aggravé. Donc, Moshe Rabbeinu, il reprend le train que lui avait donné Tatam Vaviram. Donc, ça, c'est le contexte de notre fin de la paracha. Et le dernier verset de la paracha, il dit ceci, en fait c'est étonnant parce que bien que la découpe en chapitres dans la Torah, a priori on dit que ce n'est pas une découpe juive, ça a été une découpe qui a été faite par des... La découpe en paracha, c'est une découpe juive, c'est des chachamim qui l'ont faite, mais la découpe en paragraphe, a priori on dit que c'est une découpe qui a été faite par des imprimeurs ou par des goïms, mais c'est toujours des découpes étonnantes qui ne correspondent pas à la paracha, puisqu'il y a 5 chapitres dans la paracha de Shemot, et le 6e chapitre, il commence avec un verset. Donc le dernier verset de la Torah, celui qu'on va étudier maintenant, enfin de la paracha de Shemot, c'est le premier verset du chapitre 6. Donc c'est étonnant ces imprimeurs-là, ils n'aient pas essayé de faire coïncider parachot et chapitre, d'accord, c'est une autre histoire. Et donc Hachem lui répond, il lui dit, Vayomer Adonai el Moshe, atatir e, asher e c'est le pharao, ki biat chazak e eshalchem, ou biat chazaka e garchem me'arzo. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, et on voit que c'est marqué Hachem, c'est midat arahamim, atatir e, maintenant tu vas voir, je l'ai mis en gras, Asher, et c'est le pharao ce que je vais faire à Paro. Kibiyat chazaka yeshalechem, parce qu'avec une main forte, il les renverra. Ou biyat chazaka yegarchem me'arzo, avec une main puissante, il les renverra de sa terre. D'accord? Donc Hachem, il lui répond. Il dit, attends, tu vas voir. Attends, maintenant, tire et tu vas voir. Alors, c'est une phrase relativement ambiguë. C'est-à-dire quoi, maintenant, tu vas voir? Donc, il va y avoir du changement, ça veut dire que, a priori, on imagine que Hachem, si on dit attends, tu vas voir, tu veux dire tu vas voir. Alors, il y a deux manières de dire mais attends, tu vas voir. C'est comme un père il dit à son fils, attends, tu vas voir, j'ai donné une raclée. Ou bien non, attends, tu vas voir, tu t'étonnes que les choses ne changent pas. Attends, maintenant, tu vas voir, à t'attirer. Alors, voilà ce que dit Rashi. À t'attirer, et on va voir comment le Kli Yakar il s'oppose à Rashi. À t'attirer, maintenant tu vas voir, ça veut dire irarta almidotai. Tu as critiqué mon comportement. Pourquoi? Lok Avraham, c'est pas comme Avraham, Shamartilo, où je lui avais dit, qui be Yitzhak, qui carré le Chazara, que par Yitzhak, tu aurais une descendance. Donc je lui avais promis. Et après, je lui dis, amène-le en holocauste. Et il a pas critiqué. Ça veut dire que tu es pas le premier à qui j'ai joué ce tour, entre guillemets, de donner un ordre et après de donner un ordre contradictoire. Moi, j'ai revenu, il avait la question. Puisque après la Akeda, il a dit, m'explique-moi. Alors, jamais il a expliqué. Il a dit, je t'ai jamais dit de l'offrir. Je t'ai dit de le monter. Mais pas de l'offrir. Mais en tout cas, Avraham Avinu, il s'est tué avec la question. Et il traque aussi Yaakov, etc. On va voir dans la Parasha que les patriarches, ils ont dû affronter des formes de contradiction, la parole d'Hachem, entre guillemets, et ils ont jamais critiqué. Les filles, et toi, oui, au premier ordre, tu t'insurges. Les filles rares, c'est pour cela, à t'attirer, maintenant tu vas voir, c'est pas seulement maintenant tu vas voir la réponse à ça, mais à t'attirer et à souiller les paro. Tu vas voir ce qui va être fait à paro. Tirer ça, tu le verras. Velo tirer, mais tu ne verras plus. À souiller les shiva malché ou mot, ce que je vais faire aux sept nations que j'ai à Viem la arrête quand j'amènerai les béné Israël en Égypte. Ça veut dire, en Égypte Israël. Ça veut dire, on dirait de ce texte-là, donc déjà, c'est une critique et une punition contre Moshe Rabbeinu. Hachem, il dit, tu sais quoi, à cause de ce que tu viens de faire, de cette rébellion, tu ne mériteras pas d'entrer en Eretz Israël. Alors bon, il y a bien sûr de quoi dire, parce qu'on sait que c'est à cause de Memériva, quand il a tapé sur le rocher. Il y a plein de raisons qui sont citées par les Chachamim pour lesquelles Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Eretz. Mais en tout cas, ça a l'air d'être la graine, le germe de son impossibilité d'entrer en Eretz. Il est là, par sa rébellion. C'est ça qu'Hachem dit, maintenant tu verras, c'est-à-dire maintenant tu verras le sauvetage, mais le prochain sauvetage, tu ne le verras plus. C'est fini. D'accord ? C'est rayé de la liste. Alors, c'est relativement brutal tout est difficilement compréhensible. D'abord, la manière dont Moshe Rabbeinu il se comporte, ça, on va dire, on peut, entre guillemets, le comprendre. Pourquoi ? Parce que on n'est pas obligé tous d'être à la madriga d'Avraham Avinu. Et que, effectivement, il va pour être sauvé, il va convaincre l'ennemi Israël. Il arrive devant une porte fermée. D'accord ? Et donc, Moshe Rabbeinu, en fait, c'est la défense des Bnei Israël qui prend.
Exactement.
C'est pas personnel. Avraham Avinu, c'était personnel. Peut-être personnellement, Moshe Rabbeinu, il aurait compris. Mais quand il s'agit de sauver les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu, il prend leur défense. Ça, à peu près, on peut comprendre, bien que c'est très brutal. Par contre, la réponse d'Hachem, en tout cas, vue par Rashi, elle est difficile. Ah, c'est comme ça ? Eh ben, tu vas payer. Atatira, maintenant tu verras, et plus tard tu verras plus rien. C'est fini. D'accord? Et donc, Moshe Rabbeinu aussi, il a compris cette phrase, puisqu'Hachem, il s'adresse à lui. C'est pas juste une allusion qu'il comprendra dans 40 ans. Moshe Rabbeinu, il comprend. Maintenant tu verras. Sous-entendu, c'est fini. Et malgré tout, ça nous montre la grandeur de Moshe Rabbeinu qui entend dans ses oreilles qu'il est parti pour une longue histoire qui n'aura pas de fin, puisqu'il rentrera pas en Eretz Israël, et malgré tout, il a continué. Alors, les Farshim disent qu'en réalité, pourquoi il a continué? Parce qu'il s'est dit, bon, au cours de l'histoire, j'arriverai par ma tefila, je ferai changer les choses. La preuve, c'est qu'à la fin aussi, il a continué à être Hanan. Il a fait toutes ses tefilotes, etc. Donc, Moshe Rabbeinu, il a toujours pensé que la Xéra, c'est une chose, mais qu'on peut changer la Xéra si on s'améliore. En tout cas, ça, c'est l'approche de Rashi, qui est une approche brutale, à la fois de la part de Moshe Rabbeinu, et Kavirol, entre guillemets, même dans la réponse d'Hachem. Maintenant, tu vas voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Kliaka? Veshivlo Akadosh Baruch Hu atatire. Akadosh Baruch Hu lui a répondu, maintenant tu vas voir. Ki me'aya dua, car c'est connu, shekach hi amida. C'est comme ça la nature des choses. Que quoi? Shebechol yom, chaque jour, samour la'alot ha'shachar, quand on est proche du petit matin, A Rocher Marchir Beyoter, l'obscurité, elle s'épaissit encore plus, Minchechrat Alayla, que la noirceur de la nuit. Et après seulement, Ora Shachar Boka Veolé, la lumière du matin jaillit. Ça, c'est ce que dit le Kliyakar, il cite la Gemara, que la Gemara dit que la noirceur du petit matin, elle est plus grande que la noirceur de la nuit. La nuit il fait noir, mais le petit matin c'est encore plus obscur avant le monter du jour. Vechen, de la même manière, Rov HaCholim, la majorité des malades, Samuch Lemitatam, quand ils sont proches de leur mort, En Mitchazkim, ils se renforcent, Veyoshvim Alamita, ils s'assoient sur le lit, Omevakshim Leechol, et ils demandent à manger. Veacharkach Amavet Gover, et après la mort prend le dessus. Ça, souvent, les gens de la Chebra, ils disent, quand on a un malade qui est agonisant, d'accord, il est en train de mourir, on dit, bon, attends, on peut pas voir. Si on voit qu'il reprend des forces, il reprend un peu de couleur, il commence à dire quelques mots, ils disent, oula, c'est mauvais. Alors, ça peut être juste un rétablissement. Mais souvent, quand c'est un malade en fin de vie, d'accord, j'avais entendu ça, mes parents, que quand c'est un malade en fin de vie, eh bien, le fait qu'il reprenne des forces, oui, ça montre que c'est bientôt la fin. Et c'est là où il faut se méfier.
C'est contradictoire, hein. C'est contradictoire.
Oui, bien sûr. C'est comme comme tu dis, la fin de la nuit est plus noire que la nuit.
Ouais,
d'accord?
Ouais.
À la fin de la vie, eh bien, là où il est en train de son agonie, à ce moment-là, il retrouve des forces. Vechen, un troisième exemple, Bimot Achoref, dans la période de l'hiver. Samuch la Aliat Hashemesh, quand on est proche du lever du soleil, à Kor Oler, Végovert. Le froid se renforce. À la fin de la nuit, il fait toujours plus froid. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté. Vers 3 à 4 heures du matin, il fait bon, mais dès qu'il commence à 6 heures du matin, on congèle. C'est d'ailleurs là où il y a l'humidité, où il y a la rosée, etc. Mais la sauf, et à la fin, on met Nutsach Mina Shemesh, ce froid-là, il est gagné par le soleil. Donc on voit, à la fin de la nuit, c'est encore plus noir. À la fin de la vie, il y a un tout petit renforcement. Rien bimot achoref, la même chose, il fait encore plus froid avant le lever du soleil. Et il dit pourquoi, le Kliyaka? Pourquoi c'est comme ça? Ouais, 2, 4, 6e ligne. C'est bon? Vézé, c'est bon. Vézé d'avoir TV. Michel, tu suis? Et vous, monsieur Abitbol, vous suivez, hein, j'espère. Non, ils sont pas là. Vézé d'avoir TV. Et ça, c'est une chose naturelle, ce renforcement, qui colle d'avoir tivi. Voilà la règle, je souligne ça. Toute chose naturelle, à Margish, qui sent, chez Bak et Negdo, qu'elle vient face à lui, et c'est d'avoir hafrilo, une chose qui lui est contradictoire, à Rotse les Batel Mitsiuto, qui veut annuler son existence, oui. Az ou mitrazek bioter, alors dans un sursaut de combativité, il se renforce, keneged miknakdo, par rapport à son opposé, v'yema en la'anot mipanav, il refuse de se plier. C'est-à-dire dans la nature, quel que soit l'élément de la nature, que ce soit le froid, le chaud, le noir, le mal, la vie, la mort, toutes ces choses-là, quand un élément naturel, il voit face à lui un élément qui s'oppose à lui, d'accord, il trouve les dernières forces pour lutter. Ou poel betiv o, il agit par sa nature, kol asherim tzave koro, tout ce qu'il trouvera encore dans sa force, l'ifrol pour agir, mais la sauf, et à la fin, imenutzach, il peut être vaincu, ki gavar alava efer, parce que le contraire a eu le dessus. Et donc il dit, c'est pareil, la nuit, quand la nuit voit qu'elle va céder sa place au jour, au contraire, elle se renforce encore plus fort. Quand le froid, d'accord, le froid de la nuit, il voit que bientôt le soleil va se lever, encore un peu plus fort. Et même, il dit, quand la vie, elle voit qu'elle va être bientôt vaincue par la mort, eh bien, dans un dernier sursaut de survie, elle essaye de se renforcer. Donc, c'est ça l'idée. En général, bon, c'est vrai qu'on dit ça. C'est la vie, elle donne ses dernières forces pour essayer de lutter contre ce qui s'oppose à elle.
Mais si c'est pas comme ça, comment on aurait imaginé?
Bon, on aurait imaginé. Non, il n'y a pas besoin que ça soit plus fort qu'avant. Pourquoi tu veux que...
Oui, il n'y a pas besoin que ce soit...
Il n'y a pas besoin que ce soit plus fort, c'est normal. C'est-à-dire que c'est continu, ça veut dire qu'il fait nuit ou il fait froid. Bon, il continue à faire froid, après il fait soleil. La même chose, quelqu'un qui est en train de mourir, d'accord? Il est en train de mourir, il a du mal à respirer, il a du mal à bouger, etc. Puis ça se continue jusqu'à ce que le dernier souffle. Et pourtant, on voit qu'avant les dernières secondes, il y a un sursaut de vie. Pourquoi ? Ce sursaut de vie, il s'oppose à la nature des choses.
Il n'y a pas, un besoin, je veux dire,
non,
de
c'est juste,
cet élément-là.
C'est Hachem, il a créé ça dans la nature. Que tous les éléments de la nature, quand ils s'aperçoivent que bientôt ils vont disparaître, eh bien, ils donnent leur dernière force pour essayer de continuer à exister. D'accord ? Et ça, c'est une règle dans la nature qu'on retrouve. Il a donné trois exemples, mais c'est quelque chose qu'on ressent. En tout cas, pour la fin de vie, ça, on le ressent. J'ai déjà vu une fois ou deux, et j'ai entendu ça souvent, que c'est un des signes de la Chevra Kadisha. Toujours les gens de la Chevra Kadisha, ils viennent, ils passent, ils disent, ah non, c'est pour bientôt, pas pour bientôt, attendez. On dit, mais comment ils voient dans les yeux, dans les oreilles? En théorie, ça, ils ont plein de signes. Mais ça, c'est un des signes de la Chevra pour savoir qu'une personne risque de partir. Quand ils disent, il va un peu mieux, il a demandé un peu de soupe, il dit, oulala, le quittez pas des yeux, c'est mauvais plan. Car, ainsi, c'est dans toutes les choses qu'on a citées. Que moken, de la même manière, ma she'era paro l'Israël, ce que paro, il a fait du mal aux juifs, archav, maintenant, yoter, mi ma she'asa l'eshava, encore plus que ce qu'il a fait auparavant, ze mofet choter. Hachem, il lui dit à Moshe Rabbeinu, je vais t'apprendre une grande règle de la nature. C'est un signe tranchant chez Karab Kitsou que sa fin s'approche. C'est-à-dire que toi, tu penses qu'au contraire, la situation s'aggrave, mais quand la situation s'aggrave, c'est la preuve que la situation arrive à sa fin. Paro, il a servi les Bnei Israël, il les a fait souffrir pendant 210 ans. Maintenant, je t'envoie pour les libérer, et tu vois qu'au contraire, ça aggrave. L'aggravation des événements, c'est le signe. En réalité, chez Zman à Géoula, et que le monde de la Géoula, Krova, il s'approche, les battels colpent au lotav chez le Paro pour annuler toutes les actions de Paro. Alken, c'est pour cela, ou Rotseli Trazeg pour l'otav, que Paro, il veut au contraire se renforcer dans ses actions méchantes. Oui. Vezé, Shamar Akatou, il s'est inversé les lettres. Et c'est ça qui dit le verset, Atatiré. Maintenant, tu vas voir. C'est-à-dire, maintenant, tu vas voir, on voit que le Kliyaka, il dit exactement l'inverse de Rashi, que la parole d'Hachem, maintenant, tu vas voir, c'est pas du tout, maintenant, tu vas voir, et plus tard, tu verras bien. Maintenant, tu vas comprendre ce que tu ne comprends pas. C'est que maintenant, tu vas voir, ça va être la délivrance. Toi, tu penses que l'aggravation des choses, elle est au contraire un signe de désespoir, un signe négatif. Non, au contraire, tu dois voir que là, c'est la Géoula. Mmh. Et j'aimerais à t'attirer, quatre lignes avant la fin, Bémilat, Ata, dans ce mot maintenant, Tiretzlo, Hachem, il lui a répondu, il n'a pas critiqué, Alma chez Shalo, sur ce qu'il avait demandé la marée au temps. Il dit pourquoi, les filles chez Ata, Igia Azman, que maintenant il est arrivé le moment, chez Mouchach les Shalcham, qui va être forcé de les renvoyer, ou le Garcham, et de les laisser partir. Alken, et c'est pour ça, ou Rotselit, quand même, il veut se dresser à l'EM, contre eux, Beyad Chazaka avec une main puissante. Mais c'est Mofet. Et ça, c'est la preuve qui Karov Yeshuati Lavo, qu'elle est proche ma délivrance de venir, Vetit Kati, et ma bonté les galotes de se dévoiler. Et donc, avec ça, on peut comprendre plusieurs choses. On peut comprendre, d'abord, que la réponse d'Hachem, c'est pas une réponse violente, comme le dit Rashi. D'accord? Et d'ailleurs, c'est une vraie question contre Rashi, que ce qu'il dit le Kliyakar, bon, c'est un ridouche, c'est vrai, mais Rashi l'aurait pu le dire. Pourquoi est-ce que Rashi a choisi de comprendre dans maintenant tu vas voir comme une réponse violente, négative, de punition d'Hachem, maintenant tu vas voir, plus tard tu verras pas. Alors que le Kiyaka dit, on peut le comprendre de façon gentille. D'accord? Et en réalité, ce qu'il dit le Kliyaka, souvent les Chachamim le disent pour dire qu'à la fin de l'exil, pourquoi est-ce que maintenant les tentations de Yetzirah sont encore plus grandes qu'avant? On dit que maintenant, le monde a des yetzarim, a des passions beaucoup plus dures à vaincre qu'avant. Entre tout ce qu'on voit autour de nous, etc., tous les centres d'attraction que le monde propose, c'est parce que justement, on arrive maintenant on espère qu'on arrive rapidement à l'époque du Mashiach, et c'est pour ça que le yetzarah, il sent que c'est la fin, et il se réveille. Et je trouvais que c'était important aussi de dire ça dans ce qu'on est en train de vivre. Qu'on était une phase de tranquillité, enfin de tranquillité, que plus ou moins de tranquillité. Et là, on voit tout d'un coup ce qui s'est passé avec nous, avec le, avec Simchat Torah, on a l'impression qu'on revient 100 ans en arrière, qu'on n'a jamais vu ça depuis la guerre, depuis même avant la guerre. On n'a jamais vu ça, autant de méchanceté, autant de brutalité vis-à-vis du clan d'Israël. Effectivement, on pourrait avoir l'envie de parler comme Moshe Rabbeinu, mais c'est quoi ça? On arrive près du Mashiach et encore on continue à massacrer, etc. Et effectivement, la réponse d'Hachem, comme le dit le Kliyakar, oui, elle est adaptée par rapport à celle de Rashi. Maintenant, vous allez voir. Maintenant, et c'est ça qu'on espère, que maintenant qu'on a vu toute cette panique que le peuple juif a traversée, alors maintenant, on va voir la Géoula comme Hachem il l'a promis à Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'il dit au début de la paracha suivante. On peut aussi comprendre le début de la paracha de Vaera. Hommage. Voilà, c'est d'ailleurs comme ça, je l'explique aussi d'autres mefarchim, je crois le Kliyakar aussi, c'est marqué, Hachem dit, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Adonai. D'accord? Et Rashi, dans la même lignée de ce qu'il fait ici, il prend ça comme de nouveau une critique contre Moshe Rabbeinu. Vaidaber Elohim el Moshe, Vaidaber c'est en langage dur, Elohim c'est Midat Adin, Hachem il a parlé durement à Moshe Rabbeinu. Il a dit Ani Hachem. Ça veut dire que toi tu me vois comme Midat Hadin et tu me critiques, mais Ani Hachem, je suis Midat Rahamim. Ça c'est et Rashi il dit, ah c'est pas comme Avraham, Yitzhak et Yaakov qu'eux ils ont compris. Toi à la première embuscade, tu commences à te révolter. Ça c'est Rashi. Mais le Kliyaka, il dit dans la même lignée, il dit que Vaidaber Elohim el Moshe, la Midat Hadin il a parlé à Moshe, il dit t'inquiète pas, Ani Hachem, je suis Midat Rahamim. Toi, tu vois qu'une chose dans ton regard humain, tu vois un regard de Midat Hadin, mais en réalité, c'est la Midat Rahamim qui maintenant va se dévoiler. Mais ce n'est pas du tout une critique. L'homme, il n'est pas capable. D'accord? Comme ça, il dit le Kliyakar, un homme, il n'est pas capable d'avoir ce regard au-dessus des événements, au-dessus des éléments. Bon, on peut dire qu'il n'est pas capable. Il faut avoir une émouna hyper trempée. D'accord? D'ailleurs, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils l'ont eu. Moshe Rabbeinu, il ne l'a pas eu. Et ça, effectivement, c'est un autre sujet. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il réagit de cette manière-là? D'accord? Pourquoi il réagit de façon tellement critique, à tel point que Rashi est obligé de dire qu'il va être puni? Attends, c'est trop grave, il va être puni. On a l'impression que Moshe Rabbeinu, en réalité, il se fait le porte-parole d'Ibn Israël. Et c'est plus dans ce sens-là qu'il faut voir les choses, que Moshe Rabbeinu, ce n'est pas lui qui parle. C'est la voix d'Ibn Israël qui parle. Et on voit dans plusieurs endroits que Moshe Rabbeinu, souvent, ce n'est pas lui qui veut parler. Lui, à titre personnel, il aurait accepté les choses. Mais à titre de représentant, je me fais l'écho de la voix d'Ibn Israël. D'accord?
C'est la réaction des Juifs quand ils ont vu que ça s'est aggravé.
C'est vrai que Rashi dit que c'est d'Atan d'Aviram, c'est des Rechaïm, etc. Et si tu dis que c'est d'Atan d'Aviram, ça ne justifie pas que ce soit Moshe Rabbeinu. Mais on va voir que dans plusieurs endroits, quand l'Ibn Israël il se comporte mal ou il parle mal, on voit que Moshe Rabbeinu il rentre dans leur pas. À l'époque du veau d'or, etc., Moshe Rabbeinu, ou avec,
il comprend la situation.
Moshe Rabbeinu, il comprend la situation. Et c'est ça, une des grandes qualités de Moshe Rabbeinu, c'est de s'effacer personnellement vis-à-vis du Ham Israël. Voilà, Guit Chavez, c'est que, comme il dit le Kliyakar, à t'attirer maintenant, on va voir le Ani Hachem, on va voir la Midat Raham.
Des éléments, il faut être dur.
Il faut avoir un regard qui n'est pas un regard humain, il faut avoir un regard au-dessus des choses. Guit Chavez.